étage. Je travaille en centrale pour tous mes petits braquages. À 4h du matin, je pionçais dans mon lit. Soudain, la sirène gueule et quelques poussins crient. Y'a du partout dans la tour. Les mecs, ça va saigner. Pas de son commencé à l'aile gauche de la tour. Déjà tous mes potes mettent à saccager les pios. J'ai dit allez les mecs, on se paye une petite fête. Fait que j'arrive les lardus avec des mitraillettes. Et y'a du baston dans la tour. Les mecs, ça va saigner. Pour les mains qui disent sortez de la bande de rats. C'est un temps pour l'armée si vous arrêtez pas. On va tout faire cramer. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Dans les gaz suffocants. On a tous dérouillé, mais maintenant de temps en temps, y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Allez avec moi. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner.
Salut à toutes et tous, vous êtes bien dans l'émission, à l'écoute de l'émission L'Envolée, comme tous les vendredis soirs de 19h à 20h30 sur FPP 106.3. Et bah, peut-être qu'on va commencer par dire qui y a autour de la table, parce qu'on est nombreuses, comme assez régulièrement ces dernières semaines. Déjà, il y a Serge au bocal, à la technique, mais qui s'est cassé. Du coup, coucou à Serge, fait toujours plaisir de te voir. Il y a Gaël et Léonie qui viennent avec l'Assemblée contre les centres de rétention et avec qui on va parler tout à l'heure. Il y a Louise.
Salut.
Abby.
Salut.
Chloé.
Salut.
Inès.
Salut.
Et Alex qui vous salue. Et peut-être tout à l'heure un Greg qui va réapparaître aussi. Et donc, on va rappeler aussi que L'Envolée, c'est une émission qui essaye de se faire le relais, en tout cas le porte-voix de prisonniers et prisonnières qui sont en lutte, qui essaye de regarder la société depuis la tôle, depuis les différentes tôles. Et donc, d'avoir une analyse un peu sur ce glissement, je ne sais pas si on dit fasciste, carcéral, en tout cas, qu'on vit ces dernières années, quoi. Et donc, pour nous contacter, c'est au 01 40 05 06 10 pendant l'émission, au 07 53 10 31 95 tout le reste de la semaine. On rappelle que c'est un bigot, donc il n'y a pas d'application sécurisée, pas de WhatsApp, etc. Sinon, c'est au 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris, L'Envolée-FPP. Vous pouvez aussi nous joindre sur le site internet avec un mail contact@l'envolée.net, sur Facebook et Instagram en tapant L'Envolée ou L'Envolée Journal. Ouf, voilà, donc ça c'est tous les contacts, on attend les nouvelles. Et aujourd'hui, on s'était dit que On voulait d'abord revenir sur le procès de Lille, dont on a pas mal parlé il y a 2 semaines. Après ça, on va parler du procès de Maton qui a eu lieu cette semaine avec le procès des Matons corrompus de Fresnes, comme aiment le dire les médias. Et à la fin, on va réavoir un appel de prisonnière du centre de rétention du Ménil-Amelot, comme il y a 2 semaines. Et du coup, ce sera l'occasion de donner des nouvelles, pas toujours bonnes, malheureusement, mais voilà, ce sera important, quoi. Alors peut-être qu'on va commencer et après on vous promet qu'on arrête de parler de procès de Maton pendant au moins 2 mois, mais qu'on donnera d'autres nouvelles dans les prochaines semaines. Non, donc on va commencer par revenir sur le procès de Lille parce que il y a le délibéré qui est tombé cette semaine et peut-être qu'on va rappeler vite fait ce qui s'est passé, pourquoi on en avait parlé, etc., etc.
Ouais, donc c'est moi, ok.
Ouais, ça vient de parler pendant 5 minutes.
Désolé.
C'est pas mal, je pense.
Ouais, bah donc le procès de Lille, on en a des matons de Lille Sequedin, on en a quand même déjà pas mal parlé. Donc voilà, on va pas rappeler en fait toutes les violences affreuses qui ont été faites par ces matons, voilà, mais en tout cas il y avait clairement de la violence et de la torture. Et ce qu'on rappelait un peu dans les discussions qu'on a eues auparavant, c'était principalement que l'administration en fait va pas juger, enfin les juges ne vont pas juger l'administration dans leur ensemble, mais bien essayer de trouver 6 brebis galeuses, comme si toute l'institution n'était pas responsable et ne fonctionnait pas sur cette violence là. Et l'autre truc qu'on disait, je l'ai complètement oublié. Voilà, bon, on disait un autre truc dont je me souviens plus.
Tu veux parler effet tunnel ?
Voilà, c'est ça, merci. Voilà, et l'autre truc qu'on disait, c'était cette défense de plus en plus récurrente, en fait, qui vient et d'une part des matons, mais aussi enfin tous les uniformes en fait, voilà, de parler de cet effet tunnel, voilà, qui soi-disant justifierait en fait n'importe quelle violence et tout, et ça permet de justifier tout et n'importe quoi, voilà.
D'ailleurs, on s'est renseigné, l'effet tunnel, ça veut dire tout et n'importe quoi. C'est peut-être pour ça qu'ils l'utilisent.
C'est ça,
parce que on a commencé à taper sur Google.
C'est dans le Robert.
C'est à la fois un truc soi-disant, enfin, qui pourrait concerner des personnes qui sont victimes de violences fortes, quoi, qui se retrouveraient dans un effet un peu sans rien capter pendant un temps un peu d'urgence, mais ça a l'air aussi de concerner des trucs de physique quantique, des pratiques de Krav Maga à Lille, d'ailleurs. Enfin bref, ça a l'air de concerner tout et n'importe quoi, donc c'est une très bonne défense d'uniforme, et ça a l'air de très bien marcher chez les juges et les procs, quoi.
Ouais, voilà. Et donc, et l'un d'autres des trucs aussi, enfin, que nous on réclame quand même à chaque fois, c'est qu'en fait ces matons violents, ils soient plus dans l'administration pénitentiaire. Voilà, on n'a jamais réclamé, on réclamera jamais des peines de prison pour les matons ou pour même tous les uniformes quels qu'ils soient. Voilà. Et à la base, dans son réquisitoire, la procureure, elle avait demandé que ça soit à vie, voilà, ainsi que des peines qui étaient de ça allait jusqu'à 2 ans un an de prison ferme sans mandat de dépôt, voilà, donc qui sera aménageable, et donc là c'est tombé cette semaine, donc les peines ont été clairement réduites avec seulement un an. Donc il y a 2 matons qui ont été condamnés à 1 an de prison avec sursis et à 2 ans de suspension de l'administration pénitentiaire, et 4 autres qui ont pris 6 mois de prison avec sursis et 1 an de suspension. Alors ce qu'il faut savoir là-dedans, c'est qu'en fait ils sont déjà suspendus depuis les faits, voilà, donc c'était il y a à peu près aujourd'hui, ça fait 11 mois ça doit faire 10 mois en fait qu'ils sont suspendus, voilà, donc il y en a pour certains en fait qui vont en fait retrouver Lille Sequedin dans quelques semaines, voilà, et donc pareil en fait, ça a été dit au procès par le prisonnier qui l'a vécu, c'est en fait on sait qu'à Lille Sequedin il y a beaucoup de violence de la part des surveillants, et donc là on va remettre ces matons là qui sont condamnés, où tous les gens à l'intérieur le savent, voilà, et donc tout le monde saura à l'intérieur qu'il y a ces surveillants qui sont violents et qui vont pouvoir continuer à martyriser les prisonniers à l'intérieur, quoi.
Ce qui n'est pas pour déplaire en général à l'administration pénitentiaire. Bah, quoi. D'habitude, il n'y a pas besoin de condamnation pour qu'une équipe de matons ait une réputation particulièrement sale, particulièrement violente, etc. Et là, il bah, y aura en plus une confirmation judiciaire que ces gens-là sont, des, sont une équipe de tortionnaires, et ça leur permettra d'essayer de faire encore plus régner la terreur s'ils y arrivent à ces queues d'un. Quoi. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose d'étonnant. Après, bon, sur le truc, les termes brebis galeuses, moi j'ai toujours un peu du mal, puisque miskin les brebis, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'elles ne tapent pas les bergers, mais... En tout cas, il y a un vrai truc, c'est que nous, si on demande que tous les matons violents y soient radiés, c'est parce que, en fait, il y a plus de, enfin, si tous les matons violents y sont radiés, il y a plus de matons, donc il y a plus de tôles, et donc c'est une vraie perspective stratégique, quoi, de penser ça. Et c'est pas du tout qu'on a confiance dans la justice ou qu'on pense que la justice va un jour arriver à ça, et tous les procès de matons pour des questions de violence nous le confirment. C'est peut-être moins le cas à l'occasion sur d'autres affaires, mais ça, on y reviendra juste après en parlant des procès de matons qui se font de l'oseille, qui font du racket ou qui profitent ou qui sont corrompus. Mais voilà, quoi. Et après, je sais pas s'il y a un truc à rajouter spécialement sur l'île. Peut-être qu'on se dit qu'on passe un petit coup de musique et après, on enchaîne avec le procès des matons corrompus. Mais on va pas passer tout de suite de la musique. Ok, et eh ben alors c'est si en fait on va passer tout de suite de la musique.
Ooh, A for L.
Yeah. Uh-huh. Tony, wake up, nigga. Hey yo, Camino. We don't do no carry on. Soon as we land, we gon' hit Rick. I need a bitch, I need an ounce of weed, I need something to try. I know these niggas won't stunt like the game, but that won't happen, they money too slow. We the Sopranos, bitch, the mob, you know the record 100-0. Pull up to eat, but she in the rush, she ready to fuck. We order to go, told her, don't get ahead of yourself. Nah, these niggas not petty, they broke. I put the hood on, then my bitch, I put this shit on just for the pics. I'm in the trenches and all this drip, I'm feeling lucky, I might throw trips. Your favorite rap ain't nothing like me, I stand on that, and it ain't a diss. Get off the stage and open the brick, the money coming too fast to quit. Yeah, I spent 80 bills at the lot, and I got a crazy deal. Got some out of town niggas I can send like the Navy SEAL. Got some Buffalo niggas I can move the whole package with. And some legal businesses that a nigga pay taxes with. Butch, I paint you white, she burgundy, huh? I know these niggas want murder, murder. She got that ass, she just need a snatch. You know I'm a sinner to surgery, huh? Fraud niggas doing perjury, huh? Damn, I think these niggas skirted me, huh? I keep it on me, that's for certainly, huh? She want to suck it for courtesy, huh? Niggas be ducking, they murder me, huh? I handle my business dirtily. Little nigga do you dirtily. EMS trying to get you there urgently, huh? I don't forgetting it all, huh? All the G's, they refer me, huh? You know I put that shit on, huh? All the bitches, they prefer me, huh? The time of the month, I told that bitch I'd die in your trunk. I get to throwing money all over the building, go buy you whatever you want. You listen to me, I'm shooter, a man of his own, he's sliding whatever he want. I saw my youngin', ain't nothing to book, you can fight, but you flying wherever you want. I saw my demon to take him a break. Too many niggas was dying at once, too many niggas was turning the pack. Should I look up, we done ran out of blunts. Them niggas, they must have ran out of straps. Don't let me find out, I'm beefing with bums. These niggas fool, chewing for lunch. Take you to school, you know you my son.
I spent 80 bills at the lot, and I got a crazy deal. Got some out of town niggas I can send like the Navy SEAL. Got some Buffalo niggas I can move the whole package with. And some legal businesses that a nigga pay taxes with. I spent 80 bills at the lot, and I got a crazy deal. Got some out of town niggas I can send like the Navy SEAL. Got some Buffalo niggas I can move the whole package with. And some legal businesses that a nigga pay taxes with.
Vous êtes toujours à l'écoute de L'Envolée sur FPP 106.3, comme tous les vendredis soirs. Et j'en profite juste pour rappeler que L'Envolée, c'est aussi un journal, en déplaise à l'administration pénitentiaire, et que c'est gratuit pour tous les abonnés dans toutes les différentes prisons. Et donc, il ne faut pas hésiter à nous envoyer le blaze et le numéro d'écrou, la tôle. Et on se charge d'envoyer, pas le dernier numéro, puisqu'il est interdit par l'administration pénitentiaire, mais tous les prochains numéros qui viendront, quoi. Et donc, là, on voulait revenir sur un autre procès qui a eu lieu cette semaine. Et cette fois-ci, ça concerne la tôle de Fresnes. Donc, c'est une histoire dont on a entendu parler, enfin, dont on entend parler depuis très longtemps et dont le procès se déroule enfin. Je vous laisse présenter vite fait.
Oui, bah, le procès, il a pris fin hier. C'était mardi, mercredi, jeudi. Donc, c'est en gros, l'affaire, c'est qu'un maton aurait reçu de l'argent de plusieurs prisonniers et anciens prisonniers en échange d'avantages dans la prison. du type transfert, activité comme le sport, même un poste d'oxysport notamment accordé à quelqu'un, ou le choix de codétenu, enfin ce type d'avantage qui facilite la vie des prisonniers et prisonnières en prison. Donc la corruption qu'on cherchait, c'était ça, quoi. Enfin, qu'on cherchait, que la justice cherchait, c'était ça. Ça impliquait 4 personnes, donc un détenu particulièrement médiatisé, parce que c'est lui qui était un peu à la tête de l'arnaque sur la TVA à la taxe carbone. Donc c'était vraiment une très grosse affaire. Bon, le mec était trader, etc. Un autre détenu qui, là, comparaissait libre, mais qui était enfermé au moment des faits, donc c'était entre 2016 et 2018, les faits, qui était impliqué aussi dans cette histoire de taxe carbone, et un troisième qui, lui, était en cavale. Donc il a un mandat d'arrêt, il était aussi impliqué dans les trucs, mais il n'était évidemment pas là. L'enjeu des discussions, ça a surtout porté sur le fait d'essayer d'établir des liens de connivence entre les uns et les autres. Parce que, en gros, la seule chose vraiment très matérielle qui a été retrouvée, c'est près de entre 4 000 et 500 et 5 000 balles chez le maton. À partir de là, la matière qui a été utilisée dans le procès pour poser les questions, etc., c'était des écoutes, des retranscriptions, d'écoutes, des messages, des mails, qui contenaient pas des choses très claires, qui établissaient en tout cas clairement des liens de corruption. Donc en fait, tout le procès a tourné autour de, on va dire, d'événements, d'anecdotes, de fonctionnement de la prison, pour essayer d'établir des liens entre les uns et les autres, de connivence. Donc c'était un peu déroutant, parce que on avait l'impression que on va dire ça pinaillait sur du détail, alors que on parlait d'une grosse affaire de corruption, et des fois on se demandait où était la grosse affaire, quoi. Après un petit rappel aussi, on l'a compris pendant le procès, mais la corruption, elle est caractérisée en gros par un pacte qui implique la volonté des deux parties et un échange effectué. Donc d'où le fait que c'était un peu compliqué là de comprendre où étaient les preuves qui pourraient amener à prouver la corruption. Même si pas de doute quant au fait qu'il y a eu des trucs, là c'était relativement compliqué à suivre dans le procès. Et une autre chose aussi qui était relativement intéressante dans ce procès-là, c'est donc qu'il y avait 4 personnes impliquées, encore une fois, et les uns et les autres se défendaient individuellement, avaient leur propre avocat, etc. Mais ils n'étaient pas forcément les uns contre les autres. Donc évidemment, on le comprend évidemment, quoi, que s'il y avait des liens de corruption, etc., ils n'ont pas forcément intérêt à se lier les uns contre les autres, quoi. Mais du coup, c'était assez surprenant, parce que t'as pas une parole contre une autre, et donc c'était un peu un jeu entre les différentes paroles. Et aussi, donc, ce qui était relativement intéressant, c'est que du coup, il y a pas eu de poucaverie, quoi. Il y a pas eu pas en tout cas dans les personnes qui étaient impliquées là dans le procès. Il y a pas un qui a dit non, mais si lui il a fait ça, machin, etc. C'était vraiment en mode non, on n'a pas de lien entre nous. Bon, on ne s'est pas dit grand-chose, ou ce qu'on s'est dit, ça n'avait aucun rapport. Donc voilà un peu pour résumer globalement ce que j'ai compris du procès.
Ouais, puis l'autre truc qui nous semblait important de rappeler, c'était ce que c'est que ce sinistre tôle de Fresnes, quoi, qui est l'une des tôles les plus vieilles de France. Et à cette époque-là, en fait, elle est dirigée par un type qui s'appelle Scotto. Voilà, qui est aujourd'hui directeur interrégional de Rhône-Alpes, et qui a un passif, ce bon monsieur. Voilà, c'est quelqu'un qui est passé dans un tribunal. Bien évidemment, il a été acquitté, parce que il y a eu des meurtres dans une prison qui dirigeait à Nancy. Et après, derrière, c'est quelqu'un qui a toujours été dans une grosse fight pour que les conditions de détention soient les pires pour les prisonniers. Et le truc tout à fait symbolique, et qu'on rappelle assez régulièrement à cette antenne, c'est la lutte qu'il y a eu autour des murets au sein des des parloirs à Fresnes. Donc, pour rappeler ce qu'il y avait à Fresnes il y a encore 10 ans, hein, même 5, si mes souvenirs sont bons, un peu moins, enfin bon, voilà, entre 5 et 10 ans, quoi.
Tu vieillis,
ça. Ouais, c'est ça, je me souviens plus trop des dates. Voilà, c'était, voilà, donc il y a eu globalement des fights judiciaires, en fait, qui s'est passé, où en fait, donc, l'Observatoire international des prisons faisait des recours juridique en disant vous avez plus le droit de laisser des murets à l'intérieur des parloirs. La prison de Fresnes était condamnée, voilà, donc Scotto, voilà, et il enlevait 10 cm de muret et il disait ah ben c'est bon, et voilà, et ça repartait, et on connaît les procédures de la justice, tout ça. Et voilà, donc lui, il a toujours vraiment été dans cette logique-là. Si mes souvenirs sont bons aussi, ça a été aussi lui qui a été l'un des directeurs sur la partie sécurité de l'administration pénitentiaire. Enfin, donc il y a le directeur de l'administration pénitentiaire et après il y a différentes branches et il y a une branche en particulier, enfin voilà, il y a la branche architecture, quoi, branche sécurité, et lui il a été un moment, voilà, et donc ça a toujours été un peu un des types, voilà, les plus virulents à ce niveau-là.
Ouais, c'est aussi un des gars qui a intronisé, il me semble, Taser.
C'est ce que j'allais dire. Ah bah. non, mais ouais, pardon, excuse. Vas-y.
Non, c'est Taser et LBD, non, dans les tôles de Rhône-Alpes. Et ça date quoi, d'il y a un an et demi. C'est grosse annonce en fanfare dans les médias. C'est ça y est, on est enfin prêt pour défoncer tout le monde à l'intérieur. On a des Tasers, on a du LBD. Sachant qu'il y a plein de rapports qui expliquent que le LBD, il n'y a aucune distance, enfin, il n'y a aucun endroit dans la prison où il y a la distance réglementaire pour pas que ce soit hyper dangereux, et que même quand il y a leur soi-disant distance réglementaire, en fait, c'est hyper dangereux, quoi. Et donc, c'est la région Rhône-Alpes qui sert d'expérimentation, et après, ce sera généralisé à toutes les directions interrégionales. Et il faut savoir juste, une petite digression, mais que la région Rhône-Alpes, en fait, ça sert d'expérimentation dans plein d'endroits, dans tout ce qui est le sécuritaire de l'État, quoi. C'est pareil avec la préfecture de Rhône-Alpes qui a testé plein de choses sur le droit des mineurs étrangers il y a 10 ans, qui maintenant sont appliqués partout. Enfin, en fait, c'est vraiment un endroit particulièrement, à la fois dans la population lyonnaise, pour certains corps, quoi, mais globalement, même dans l'administration, c'est vraiment une administration raciste et fasciste, quoi, qui expérimente plein de choses, et une fois que ça passe, c'est généralisé, quoi.
Bah donc en tout cas voilà, lui il a vraiment un profil très 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 particulier, ultra sécuritaire, enfin non pas que les autres ne le soient pas, mais voilà, mais lui il est vraiment, enfin ça fait partie des pires, en fait.
Il arrive,
voilà,
à être pire, ouais,
voilà, c'est ça. Et voilà, mais donc en fait c'est quand même un contexte très particulier qu'il y a dans cette tôle de Fresnes, dirigée par ce gars, parce que
ok. Et du coup, donc, effectivement, c'est une tôle qui est un peu compliquée. Après, là, on parle de corruption. Moi, juste, je voulais rebondir sur le fait que tu disais ils se sont pas poucaves. En fait, c'est aussi le propre de l'affaire de corruption, quoi. C'est-à-dire que si tu poucaves l'autre, tu t'auto-poucaves. Donc, il n'y a pas de défense collective, ça, c'est clair. Mais en même temps, tu es obligé de rester dans ce truc-là de minimum de faire bloc ensemble. Et quoi. Voilà. Et du coup, c'est ça, je pense, qui crée ce rapport-là, parce que sinon... des deux côtés des gens qui sont à la barre à ce moment-là, je pense qu'ils n'auraient pas trop hésité à se poucave s'ils avaient eu l'occasion, quoi. Enfin, connaissant un peu les profils des matons, etc. Quoi.
Oui, non, de ouf, je suis d'accord.
Et donc, enfin voilà, c'est vraiment bon. Enfin déjà, on sait Fresnes à quel point c'est affreux, quoi. Voilà. Et donc là, c'était particulièrement avec ce type en particulier dont le seul objectif, en fait, c'est de pourrir la vie des prisonniers et des prisonnières à l'intérieur. Voilà. Et donc ça en sera quand même beaucoup question à l'intérieur de ce procès. C'est des conditions qu'il va y avoir à ce niveau-là, quoi.
Ouais, parce qu'en gros, du coup, pendant tout le procès, on parle des conditions de détention, parce que justement, le but du procès, c'est de déceler les moments où il y aurait eu des connivences, donc entre ce maton accusé de corruption et des prisonniers qui auraient profité, en fait, bah voilà, davantage en tôle, quoi. Donc, y avait même les gens qui disaient là, on recherche en fait des signes de rupture dans l'égalité de traitement des détenus, quoi. Donc, hyper bizarre. Et donc, voilà, en fait, d'un côté, en fait, pendant le procès. Il y a même des gens, que ce soit les baveux ou les juges, qui reconnaissent que Fresnes, je crois qu'elle a été qualifiée à un moment de la pire tôle de France. Et en même temps, on ne parle pas beaucoup au début des conditions de détention, parce qu'au contraire, on passe, les juges passent leur temps à demander du coup, aux détenus qui étaient là et à l'ex-détenu de justifier sur des espèces d'avantages qui, de l'extérieur, paraissent... du rien du tout, quoi. Donc, tout y est passé, des histoires de non-sanctions disciplinaires pour des trucs comme des briquets, le fait qu'il y en a un des deux qui avait le droit de prendre une douche par jour, donc t'as des juges qui demandent aux détenus « Comment ça, t'as eu une douche par jour, genre grave abusé et tout ?» Donc, il y a un peu, en fait, cette mise sous le tapis des questions de détention, donc on pourra peut-être un peu détailler, genre, sur quoi ils les font chier et tout. Mais, d'un côté, les juges qui disent « Friends, c'est la pire tôle de France, on sait très bien ce qui s'y passe, on va continuer à y envoyer des gens, mais on sait très bien... » Enfin, pour l'anecdote un peu rigolote, il y avait eu un autre procès à Créteil l'année dernière où il y avait même une juge qui avait dit « faut raser Friends, c'est n'importe quoi et tout ». Mais bon, voilà, tout continue comme avant, quoi. Et par contre, en fait, comme le maton en question, pendant l'instruction, il a été mis en détention provisoire pendant 8 mois, il y a eu un assez long moment où le maton parle de ses conditions de détention à lui et écrit, en fait, raconte quoi, comment c'était... grave horrible pour lui aussi, parce que c'est cool pour personne. Et en ce moment-là, en fait, ce moment-là du procès où le maton parle de sa détention provisoire, c'est un peu le seul moment où les juges écoutent des trucs horribles sur la tôle sans couper tout le monde et sans dire « Ah ouais, mais pourquoi t'as eu une douche et tout, quoi ?» Donc c'est ça qui était hyper bizarre dans ce procès.
Et donc oui, pour revenir sur l'attitude des juges vis-à-vis de la tôle en dénonçant « Friends, c'est la pire tôle », etc. Il y a eu aussi un moment où franchement, c'est... Un moment exceptionnel d'audace des juges, d'aller rappeler on connaît très bien les chiffres de la surpopulation, on les a tous les jours, on les a tous les mois, on pourra les rappeler tout à l'heure, elle les a jamais rappelés, cela dit. Comme si elle s'insurgeait contre ça, alors que, on est d'accord, en fait, c'est toi qu'on voit des gens en tôle tout le temps. Donc la surpopulation, c'est bien mignon de la dénoncer. Et il y a autre chose aussi, moi, qui m'avait fait un peu tiquer, c'est qu'il a été question de l'isolement, du régime de l'isolement plusieurs fois. Et en fait, à chaque fois qu'il en a été question, en général, c'était les baveux qui en parlaient, ou le maton, la juge, à chaque fois, interrompait pour dire « Oui, il faut savoir que l'isolement, c'est aussi pour la protection. Hein. » Enfin, presque comme si elle s'en défendait, alors qu'on ne t'a rien demandé, et que, à partir du moment où t'as un régime de torture, quoi, qui est utilisé à la fois pour punir et à la fois pour protéger des gens, enfin, à un moment donné, il faut se poser des questions aussi, quoi. Et ça, elle l'a pas soulevé, mais donc du coup, elle a ce genre d'attitude qui était franchement, c'est crade, quoi.
Et ce côté absurde, en gros, il a été encore plus poussé par un moment hyper bizarre où, en gros, l'avocat du maton, alors qu'on parlait pas de sa détention provisoire à lui, mais de qu'est-ce qui avait pu l'amener, à être un maton corrompu, quoi, qui commence à expliquer que, en gros, c'est pas facile d'être maton dans la pire tôle de France. Et que c'est parce qu'il a supporté des trucs improbables en tant que maton dans une tôle insalubre et tout, qu'à un moment, il a craqué et il a commencé à faire des trucs, quoi. Donc,
Ouais, ça c'est toujours un peu drôle, quoi, parce que tu te demandes toujours à quel moment, Et en fait, c'est aussi un côté... là, on peut faire le lien avec le procès qu'il y a eu des matons tueurs de Sambali, où c'est comme ça aussi que justifie la proc en disant c'est parce que la tôle est crade et tout ça, et voilà, qu'elle déshumanise et qu'après, derrière, les matons se comportent mal. Et donc ça, c'est quand même vraiment un truc complètement incroyable. Mais ce qui est assez ouf aussi, c'est que pour une fois, parce qu'en fait c'est quand même un truc qu'on raconte souvent quand il y a quelques uniformes qui se retrouvent derrière les barreaux, ils ont généralement, ils se retrouvent souvent à la santé, dans le quartier qui est quand même l'un des moins crades et tout ça, et là ça n'a pas été le cas pour ce maton, qui a vécu une détention à l'isolement certes, à Fresnes, donc remis à l'endroit où il avait matonné, et mais ça va être que à ce moment-là que va y avoir une écoute en fait sur c'est quoi des conditions de détention abjectes en fait, je sais pas si
oui, puis c'est exactement ça, c'est il y a que à ce moment-là, et en plus parce que c'est à Maton, que on en fait un cas exceptionnel, oh là là, c'est horrible ce qu'il a vécu, etc. Mais en fait ce qu'il décrivait, et on va pas rentrer dans des détails crades, mais il décrivait des choses très crades qui arrivent en fait quand tu arrives à l'isolement, quand tu vis la détention, des tentatives de suicide, des mal. Voilà, on en fait un cas exceptionnel. C'est horrible qu'il ait vécu ça, et il a vécu ça parce que sa situation, parce que si, parce que ça. Mais en fait, c'est ce que vivent énormément, énormément, et beaucoup trop de détenus dont on n'entendra jamais parler, quoi. et dont je pense eux-mêmes n'en ont jamais parlé. Et donc c'est ça qui était vraiment relativement frustrant aussi à ce procès, quoi. Et il y avait autre chose aussi qui était relativement intéressant, je mets des guillemets, quoi, c'est que les détenus et ex-détenus qui étaient Mimran et l'autre qui comparaissaient libres, etc., qui étaient dans le Détroit, le pire quartier de Fresnes, tout ça, quand ils ont fait les personnalités à la fin, donc ils ont dressé leur CV, quoi, casier judiciaire, etc. Et Mimran, alors je ne les ai vraiment pas toutes listées, mais depuis, il avait des condamnations depuis 2007. Alors des petites condamnations par-ci par-là, d'infractions au code de la route, des grosses amendes à payer, des trucs de corruption aussi, de je crois des détournements de fonds, enfin des trucs comme ça, et des choses du coup relativement au sens du système pénal grave. Et ça, il y en a eu, il me semble, 5-6 avant 2016, sa première incarcération. Alors, quand on entend ça, sachant que tous les jours au tribunal, il y a des gens qui sont envoyés en tôle pour une première récidive sur une petite affaire de stup ou de vol ou n'importe, et ben ça rend ouf, quoi. Non pas qu'on soit pour la prison pour qui que ce soit, mais en fait, les deux poids deux mesures aussi flagrantes. Enfin là, ça montre clairement que les riches, quand ils payent, on les envoie pas en tôle, c'est les pauvres qu'on envoie en tôle, quoi. Donc voilà, je pense que ce procès-là, au vu des autres procès desquels on est habitué, quoi, auxquels on est habitué, ça montrait de façon assez flagrante le fonctionnement d'une justice de classe, quoi.
Mais après, je pense pas que ce soit qu'une question de classe, c'est aussi une question de délit. C'est-à-dire que d'habitude, ces délits-là, ils sont faits par les gens de la haute société, quoi. Et qu'eux, ils veulent pas créer de jurisprudence sur les délits qu'ils commettent au quotidien. Parce qu'en fait, dans l'affaire de la taxe carbone, c'est un truc qui est quand même très connu bien avant que ça soit judiciarisé, quoi. En fait, il n'y a pas que des gens qui sont des gros bourges. Il y a plein de gros bourges qui se sont fait des thunes là-dedans dont on n'entendra jamais parler et qui seront jamais concernés par une instruction. Mais par contre, dans les gens qui sont envoyés en tôle, c'est pas forcément les plus gros bourges du coin, quoi. En vrai, c'est quand même pas mal de gens de Belleville et tout. Et du coup, en fait, moi, je pense qu'ils ont vraiment peur de créer de la jurisprudence pour tous les Sarkozy, Balkany à la con, là, qui ont des procès dans la période, quoi.
Et après, il y avait un autre point qui nous semblait important, c'est qu'en fait, la corruption, ce qui qualifie de corruption, en fait, c'est le quotidien de la tôle. C'est-à-dire qu'en fait, les matons qui font rentrer les téléphones portables, qui se font leur 13e mois grâce au shit et tout ça, et voilà. Et donc, en fait, ça fait partie même du fonctionnement des prisons. Voilà. Et donc, nous, on n'a pas de réponse à ça pour l'instant. Et de toute façon, je pense qu'on n'en aura pas parce qu'on n'est pas, dans les méandres de l'administration. Mais on se dit que c'est sûr qu'il y a d'autres bails qui se sont joués que simplement parce qu'en fait, on sait que ça fait partie du fonctionnement même. Voilà. Et commencer à reprocher à des prisonniers, quels qu'ils soient, de vouloir améliorer ses conditions de détention, ça, c'est un vrai problème. Voilà. Et c'est pas tolérable et c'est pas acceptable, en fait. Parce que c'est pour ça que c'est complètement hallucinant, cette manière qu'ils ont eu de dire oui, en effet, les conditions de détention, elles sont pas top, mais quand même vouloir avoir une douche par jour, c'est pas bien. C'est complètement intolérable. Voilà. Et en fait, le quotidien, il passe par là. Et je crois que il y avait quelqu'un qui le disait à la barre.
Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, je pense que, au-delà de ce sur quoi il devait se justifier et tout, il y a eu une grosse interprétation entre les juges et les prévenus, prisonniers, ex-prisonniers, pas avec le maton, de genre, c'est quoi la débrouille en tôle, en fait. Et les juges, ils avaient l'air de pas du tout comprendre ce truc et les demander de justifier. Et les autres, ils hallucinaient en mode, mais là, on parle d'un briquet, quoi. Et donc, on finissait par reparler des faits sur lesquels ils voulaient prouver des bails de connivence et tout. Et en fait, les prévenus, ils répondaient relativement assez bien à ça. Parce qu'ils étaient... Enfin, il y en a un qui a dit à un moment, mais en fait, il n'y a rien à profiter à Fresnes, quoi. Tu nous parles de quoi exactement? Et donc...
Et il y a ce truc, à un moment aussi, ils disaient, mais en fait, nous, le seul truc auquel on va penser, c'est soit s'évader, enfin, à sortir d'ici, soit à améliorer un petit peu nos conditions de détention, quoi. Et donc, en fait, cette recherche-là, elle est normale. Et le truc, c'est qu'en fait, l'administration pénitentiaire, elle joue là-dessus. Voilà, et c'est là qu'a eu ce... Enfin, moi, je suis pas là pour dire ce mec-là, il était bien méchant ou quoi que ce soit. Mais en fait, l'administration pénitentiaire, dans son ensemble, et donc les chefs de bâtiment et autres dans leur ensemble, ils utilisent la volonté qu'a chacun, normalement, de vouloir améliorer ses conditions de détention pour faire en sorte que son bâtiment, il tienne et qu'il y ait pas, que ça soit pas trop le zbeul dans son bâtiment. Et donc, leur rôle à eux, ça va être de répartir un peu les trucs sympas qu'on va donner. Et en fait, ça fonctionne de manière générale, dans l'ensemble, sur à qui est-ce qu'on va donner le travail, à qui est-ce que, enfin voilà. Et ça, en fait, c'est le fonctionnement classique d'une tôle. Voilà, deux filets, voilà, les matons, ils filent des petites trucs qui sont dérisoires. Enfin voilà, quand on parle d'un briquet, c'est dérisoire. Enfin voilà, quand on parle d'une douche par jour, c'est dérisoire. Mais à l'intérieur, c'est pas du tout dérisoire en fait. C'est vital, voilà. Mais la tôle tient grâce à ça en fait. Elle produit des conditions de détention affreuses. Et après derrière, en filant des petits bonus, je sais pas comment le formuler, voilà, ils arrivent à tenir le bâtiment grâce à ça et voilà. Et aussi, enfin voilà, et les autres trucs qu'on dit, de lier les prisonniers les uns contre les autres et tout ça. Et là, ça a aussi été le cas dans cette affaire où pour un truc qui est pas clair, enfin qui est pas nécessairement très très clair, j'ai l'impression pendant le procès. Et donc, on va peut-être pas non plus s'étendre. Enfin, je sais pas. Enfin, on peut si vous le souhaitez.
En tout cas, oui, il y a un truc qui a été aussi intéressant à ce procès, c'est l'attitude. Assez, la personne qui était dans le box là, donc Imran qui était encore à Fresne, et l'autre personne donc qui comparaissait libre mais qui était passée par Fresne, etc. Ce qui était intéressant dans leur attitude relativement chill et assez assurée quoi, c'était qu'ils racontaient en fait effectivement comment se passait la tôle de façon simple en fait, et c'était assez voilà, intéressant d'entendre dans une salle d'audience des personnes qui tenaient tête en fait vraiment au juge et au rôle qu'on attendait d'eux, etc., en racontant mais vraiment des faits réels de ce qui se passe en détention. Et effectivement, pour reciter un autre qui rejoignait en fait ce que disait la copine tout à l'heure, il y en a un qui a dit: en détention, tout ce qu'on veut, c'est sortir et vous occuper la tête pour que le temps passe plus vite en attendant. Et voilà, ça résumait pas mal de choses et en fait c'était ce qu'ils expliquaient quoi, que tout ce qu'on reprochait là ou qu'on cherchait à caractériser de corruption et tout, bah en fait le dossier était relativement vide compte tenu du fait que c'est juste la réalité tout le temps. Dans ce cas-là, il y aurait des affaires de corruption absolument tout le temps, et donc voilà, ça pose la question de pourquoi cette affaire-là elle est sortie quoi. Et effectivement, ce qui a été aussi évoqué dans le fait que des matons un peu pourris, ou plus pourris que les autres, en fait, non, les matons, enfin voilà, comme disait aussi Serge, de toute façon, les matons font tenir la tôle comme ça, et il y a une histoire de monter les prisonniers les uns contre les autres et tout, et alimenter le racisme et notamment là l'antisémitisme, et ben ça a complètement fait partie du jeu quoi, parce que il y avait et c'est quelque chose qui est ressorti pendant le procès, de préciser et de rappeler que les personnes impliquées là sont des personnes juives, etc., et que donc des autres détenus, enfin ils étaient protégés parce que en fait c'est ça, ils avaient un statut protégé et donc avec des conditions améliorées parce que en fait ils couraient le risque d'être attaqués par d'autres détenus. Donc voilà, ça c'était le discours qui était tenu un peu pour justifier les avantages qu'ils avaient et voilà, donc ça a mis en exergue le fait que il y a des formes, voilà, comme partout il y a des formes de racisme entre les communautés, etc., mais que les matons, voilà, ils capitalisent là-dessus pour assurer l'ordre qu'ils ont envie de faire régner dans leur tôle, quoi.
Eh ben non, moi je pense que juste sur les affaires de corruption comme ça, pourquoi il y en a une de temps en temps, parce qu'il en faut bien pour blanchir en fait toutes les professions. Il y a la même chose en politique, hein. De temps en temps on nous fait tomber un petit politicien, on nous dit « waouh, celui-là il est grave corrompu », tout ça, tout ça. Et en attendant, tous les autres, eh ben, ils continuent d'avoir de la corruption légale ou pas, enfin on en a un peu rien à foutre, mais en tout cas ça continue. Et c'est la même chose chez les keufs, où tout d'un coup on nous parle d'une unité de la BAC qui raquette tout le monde depuis 50 ans, et en fait t'es en mode « bah ouais, mais tous les keufs font ça dans tous les quartiers, donc voilà ». C'est la même chose chez les matons, c'est la même chose en fait dans tous les corps d'État, et il y en a besoin d'une fois de temps en temps, histoire de rassurer les gens et de leur dire « mais non, vous inquiétez pas, la justice fonctionne », tout ça. Et c'est souvent ceux qui sont pas soutenus, ceux qui ont pas de réseau, et qui du coup vont prendre cher pour les autres, pour l'exemple, parce qu'ils aiment bien faire de la justice pour l'exemple, quoi.
Ouais, justement, par rapport à ce fait de parler de ce maton corrompu et de comment ils tiennent les bâtiments, du coup, comme ils ont passé leur temps à chercher des connivences, du coup, avec des prisonniers ou ex-prisonniers d'avantages qu'ils ont eus, bah en fait tout l'autre côté qui est que bah peut-être que quand ils ont des connivences avec des prisonniers, bah il y en a d'autres qui mangent dans leur gueule, bah ça a été aussi mis sous le tapis. Et donc il y avait ce genre d'histoire au procès aussi, que en fait bah le maton, c'est pas seulement qu'il est corrompu au point de genre donner une douche supplémentaire à des gens par jour quoi, mais c'est aussi que du coup bah quand il y a il sanctionne aussi particulièrement d'autres gars. Et donc il y avait des histoires de gars sur lesquels il est tombé des sanctions disciplinaires hyper chelous, de se faire bouger de bâtiment et tout à cause d'histoires avec ces gars là quoi. Donc on parle que de sa corruption quand il file des douches aux gens, mais par contre quand il bolosse d'autres prisonniers, bah ça c'était pas trop la question du tribunal non plus quoi.
Ouais, et ça, enfin, on parlait de racisme, etc. Je pense que ça peut être intéressant aussi à évoquer, et ça a été évoqué rapidement pendant le procès. Mais il a été question d'un prisonnier musulman avec lequel donc le maton en question aurait voulu faire un pacte de corruption quoi. Et apparemment le prisonnier aurait refusé. Et donc, ce qui s'en est suivi après cette mésentente entre le maton et le prisonnier, c'est que d'un seul coup, il s'est retrouvé DPS, quoi, détenu personnellement surveillé, qualifié d'islamiste, d'intégriste, de dangereux. Voilà, et ils lui ont collé, en fait, ils lui ont collé tout ça sur la gueule. Donc, voilà, donc ça, c'était, ça a été vraiment évoqué très rapidement. Mais cela dit, je crois que c'est pas la première fois qu'on entend un peu ce genre d'histoire, quoi, de créer tout un personnage, tout un personnage hyper dangereux en capitalisant sur le racisme contre les musulmans et le climat sécuritaire et la peur du terrorisme islamiste, etc., quoi.
Après, le statut DPS, il peut prendre différentes formes et tout ça. Là, il a pris cette forme-là et tout ça. Mais de toute façon, en effet, il cherche. Voilà. Et cette personne-là en particulier, en fait, l'avait bien expliqué, en fait, que lui, tout ce qu'il voulait faire, c'était que son bâtiment, ça tienne. Voilà. Et il l'explique à la barre, voilà. Et que c'est comme ça qu'en fait, il donne les trucs, il refuse. Des prisonniers qui sont de confession juive mais qui sont pauvres dans le bâtiment je sais pas trop enfin ce qui est sûr c'est qu'en tout cas ils utilisent de manière générale les rapports qui peuvent être compliqués entre les communautés à l'intérieur pour diviser les uns contre les autres lui j'avais quand même un peu
Ouais, après, il n'y a pas de communauté juive. Hein. Non, parce que.
Non, mais oui.
C'est une religion, tout Pardon. Ça. Il n'y a pas de communauté juive.
Mais donc, les étiquettes, en tout cas, qu'on peut mettre sur les gens et tout, désolé. Voilà. Et donc, ça, il l'utilise de manière générale. Mais en fait, lui, il semblait être principalement dicté. Enfin, moi, l'impression que j'en ai compris, mais après, je pense qu'on n'a pas eu tous le même compréhension du procès et tout. Et c'est intéressant d'avoir nos deux. Enfin, les différentes approches. Mais lui, ce qu'il voulait, c'était que son bâtiment, ça tienne à peu près, quoi. Voilà. Et il refusait des gens ou qui avaient peur de foutre le sbeul, et inversement, quand il y en avait un qui n'acceptait pas les conditions qu'il proposait, comme tu le disais, à ce moment-là, il faisait en sorte, par quelque manière que ce soit, et donc là c'était avec un truc DPS, de l'éjecter de son bâtiment. Et ça, en fait, c'est le fonctionnement de tous les directeurs de bâtiment, quoi. Enfin, je veux dire, en fait, ils fonctionnent comme ça tout le temps. Et voilà, donc il y avait un truc où c'était tellement classique, en fait, enfin, je veux dire, de ce que nous racontent les gens de l'intérieur sur comment ils se font bolos par des directeurs de BAT et autres, ou passer d'un coup d'un seul en régime d'isolement, voilà, que c'était assez étonnant de voir ça à l'intérieur de ce procès, et tout en même temps, ces juges qui valident en fait des conditions absolument dégueulasses à l'intérieur, quoi.
Ouais, après. En fait, je pense qu'on l'a déjà dit plein de fois, mais la prison, c'est quand même la représentation de la société dans laquelle on vit à l'extérieur, en peut-être 150 fois, voire 300 fois plus violente. Et les rapports d'argent, en fait, au-delà des rapports de communauté, c'est surtout les rapports d'argent, en fait, qui sont très très importants. Et même sur la question de se faire bolos, en vrai, la plupart du temps, ça n'a aucun rapport avec ta race, ça a surtout rapport avec ce que toi tu peux amener en termes de thunes. Et bon, moi je suis d'accord avec ce qu'il a dit Alex, hein, c'est de temps en temps, il faut un exemple. pour dire non, mais nous, on n'est pas corrompus, regardez, on sévit. Alors qu'en vrai, on sait tous très bien que la tôle, elle ne tient pas, en fait. Tu vois, comme tu as dit, la tôle, elle ne tient pas s'il n'y a pas un peu de shit, parce qu'il y a quand même plein de gens qui ont des problèmes d'addiction qui se retrouvent là. Et donc, ils ont besoin de shit, ils ont besoin d'héros pour tenir, et ils savent très bien, surtout une tôle comme Fresnes, où il y a quand même vachement de détenus, s'il n'y a pas de shit, s'il n'y a pas de portable, s'il n'y a pas les petits arrangements avec les matons, en fait, la tôle, elle crame. Enfin, c'est émeute dans la seconde, se retrouver, et moi, je sais ce que c'est, hein, se retrouver un vendredi sans tabac, il faut attendre jusqu'à lundi. Tu fais ça sur 3000 détenus qui n'ont plus de tabac le vendredi, parce qu'en vrai, quand tu cantines, tu n'as pas forcément les moyens de cantiner toutes les clopes que tu veux. Et en vrai, comme tu n'as rien de mieux à foutre, bah, tu fumes clope sur clope. Et donc, le mercredi ou le jeudi, déjà, tu n'as plus de tabac la plupart du temps. Et bah, tu es obligé de t'arranger avec les matons, leur rendre des services. Si tu as des thunes, c'est mieux. Si tu n'as pas de thunes, tu te fais bolos. Si tu as un fort caractère, on va t'arranger aussi parce qu'on ne va pas avoir de problème, parce qu'on va dire que tu es un meneur. Et puis en vrai, si t'as personne derrière, si t'as pas de potes, si t'as juste envie de faire ta peine pépère et parler à personne, bah tu te fais boulos aussi. Et il y a aussi la question, enfin dans les maisons d'arrêt, c'est un peu le même principe. Hein. Quand t'es en maison d'arrêt, moi j'avais une co qui avait un portable en cellule. Et elle a dit, moi, t'as vu, je suis partie sur une peine à 2 piges, frère. Elle a dit ça au chef de détention, hein, direct. Elle lui a dit, écoute frère, moi je suis partie sur une peine à 2 piges. Ça veut dire, moi j'ai un portable. Et si j'ai pas de portable, je vous mets à la misère. Donc quand vous allez faire des fouilles en cellule, vous allez voir mon portable et vous allez rien dire. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Moi, je voyais les surveillantes qui rentraient, fouilles de cellules, le portable sur le lit, et on fait comme si on n'avait rien vu. Parce qu'ils savent très bien que c'est comme ça qu'ils achètent la paix sociale, et que c'est le seul moyen qu'ils ont de ne pas avoir toutes les tôles en feu. Et donc là, le procès des matons, dire qu'ils sont juifs, c'est facile, hein, parce que les juifs, forcément, ils ont de l'argent. Enfin, je pense que ça fait un moment que, que cette excuse-là, ils nous la sortent, quoi. Mais voilà, du coup, je suis un peu perdu dans les pensées, là, parce que ça me vénère de ouf. Et... Donc ouais, en fait, les rapports, c'est pas que des rapports de communauté de racisme, c'est aussi quand même beaucoup des rapports d'argent. Et bah, après, les communautés, et, d'où tu viens et pourquoi t'es là, bah, c'est ça aussi qui fait si t'as des thunes ou non, quoi.
Oui, bah c'est fin, clairement, ce qu'il conteste, c'était si les gens, ils avaient de l'argent ou pas, quoi. Les gens qui étaient... Enfin, moi, l'impression que j'en ai eu, quoi. En tout cas, il a refusé dans son bâtiment des types qui n'avaient pas d'argent, quoi. Enfin, voilà. Et il ne les voulait pas. Et voilà. Et ça, c'était pas question de communauté, d'identité, ni quoi que ce soit. Voilà, quoi.
T'es fait bégayer.
Ouais, c'est ça. Je suis désolé.
C'est compliqué pour parler.
Mais voilà. Et est-ce qu'on avait des trucs à rajouter
Non. Sinon, on va passer un petit coup de musique.
Juste parler d'un dernier petit truc qu'il y a eu à Fresnes. Enfin, c'est pas un petit truc d'ailleurs. Voilà, mais c'est juste que on a été contacté par l'approche d'un prisonnier qui est décédé en détention au début du mois de janvier dernier. Voilà, on en avait parlé un petit moment. C'est Théo, voilà, et qui a été retrouvé à l'intérieur de sa cellule. Voilà, enfin dans une, je ne vais pas décrire comment il a été retrouvé parce que c'est vraiment suffisamment atroce, et qu'en fait là est sorti dans la presse. Donc elle nous a demandé d'en parler là et tout, est sorti dans la presse en fait le rapport de l'IGP, alors attendez, je retrouve le nom précis du truc de l'IGS, voilà, enfin le truc de, enfin voilà, mais qui est un truc secret, voilà, le truc général des services de la justice. Voilà, et qui raconte comment se sont passés ces, enfin voilà, comment quels ont été les trucs affreux qui se sont passés, voilà. Pour l'instant, c'est un rapport qui est confidentiel en fait. Voilà, ce qui est quand même un truc de gueudin, quand même que pour des morts comme ça en détention, il y ait des rapports qui soient confidentiels. On comprend très bien pourquoi ils veulent que ça soit confidentiel. Voilà. Mais donc voilà, qui en tout cas met bien en cause l'administration pénitentiaire. Et ce rapport, il a plusieurs mois. Voilà, et il sort seulement maintenant. Voilà, et donc on nous a demandé d'en parler et tout ça. Il y a des articles. Enfin, il y a un article qui est sorti dans la presse dont on n'a pas réussi à avoir accès, mais voilà, mais en tout cas ce qui est quand même complètement dingue, c'est que voilà, enfin il y a la mort de quelqu'un, il y a eu une enquête judiciaire qui a été faite et qui a été classée sans suite, et en parallèle il y a cet organe un peu administratif et tout ça,
totalement administratif,
qui met en cause, mais donc vu que c'est pas les juges et tout ça, ben, en fait ça va passer, quoi.
Ouais. Donc et voilà, coup, et probablement qu'on l'aura au téléphone et tout ça.
Peut-être on peut juste rappeler voilà. De qui il s'agit.
Ouais, j'ai dit Théo.
Ok, il s'agit de Théo qui s'est fait buter à Fresnes.
Ouais, oui, pardon.
Ouais. Et on donnera sûrement des nouvelles de manière un peu plus poussée dans les prochaines semaines, si ses proches ils souhaitent en parler. En tout cas, l'antenne, elle aurait ouverte. Et ça fera une raison de plus de parler de cette tôle qui est vraiment à chier. Quoi. Bon, on va passer un petit coup de musique et après on reçoit les appels de prisonnières.
We used to be good friends a long time ago.
Niggas know I'm the plug, now plug me in the socket. On gates between Marcy and Nostrand, rolling up some chocolate. A couple friendships compromised from wrong involvements. My lawyer is the nicest, I ignore the warrants.
We used to be good friends a long time ago.
We used to be good friends, but we can't no more. Cause I don't like how you look from the optics. We took an oath together, but now you and niggas is targets. You see, you fool to me and my niggas is coming to harvest. Harvest.
We used to be good friends a long time ago.
Loyalty should be a blessing and never a burden. Never sacrifice a loved one because it was hurting. I tell you two things that's for sure and one thing that's for certain. You already know how the show will end. You niggas is curtains. Curtains.
We used to be good friends a long time ago.
Finish the bag of chocolate, not rolling another. Reprimand dudes like your mother was scolding your brother. Niggas swore on our friendship, how could you recover? Impossible, y'all at the wake, or holding each other. Each other.
We used to be good friends a long time ago.
Time and time again, I'm so used to reflecting. I'm out the womb, you was like my brother from a C-section. The streets would talk, but it was you that I would keep protecting. Despite how I tried, it was you that was a deep infection.
We used to be good friends a long time ago.
20 years of friendship, but now I'm so shameful. I co-sign the weakest link when I threw on the cable. Come clean, my nigga, we putting the truth on the table. I leave you all to refer to the story of Cain and Abel.
We used to be good friends a long time ago.
Slinging cracks in the beauty parlor. Dress my bat in all Louis shit, drinking Carlo. Rossi, you Rossi's is adamant, grabbing wallows. Took the whole team shopping and smoked in the Apollo.
We used to be good friends a long time ago.
Jerry Limpy, your stomach, dick chains posing. Out in Flatbush with 12 chickens and 2 good nosemen. Sniffing like elephants, cannons on, looking frozen. Nikes with pipers, the Reagan world bought explosions.
We used to be good friends a long time ago.
I'm 2.5s to the P9s, driving a Sterling. Or Max with your biggest niggas from behind. The plugs is dusted, the shooters got curly beards. Taking flicks with Super Shabba Ninja there. What?
We used to be good friends shit. A long time ago.
Yeah, that's why I fucked your bitch, homie, while you was out there wildin'. She was in here blowing me, moving cracks together. Then you start owing me. Gotta watch this nigga, my heart starts showing me. Got her hands dirty and scrambled with no sanitizer. We fucked snow bunnies together without an energizer. Way before the tunnel, Mars in the Palladium. Before you put the gun on his neck, I pushed the blade in him. Smoother than Kenny Lattimore in all categories. Killers know the deal and never ran up on me. Yeah, we used to take trips to Willie Burgers, dusted on 116th. I will hold a burner, middle finger out the window, yelling murder, murder. Ready to ride on a nigga, then go fuck a squirter.
We used to be good friends a long time ago.
And then you stole 100 grams, nigga. Then became a rattlesnake in a sand slither. On the block, it was me who had the fans, nigga. Bury you fast in the dirt, you make a plant, nigga.
We used to be good friends a long time ago.
Yeah, it was the case that they gave me.
Gave me.
Every 28 turn to 80, weigh me. Pray to cocaine, God save me. My chinchilla got rabies, they won't raid me.
Back in 04 and the baby, crazy. Bulletproof Mercedes, fire out the Benji. Never no safety. Santa Monica, eating grill shrimp with Jay-Z. Looking rich lately. Broke niggas hate me. Court guys raise me. 14,000 square foot house, spacey.
Tin brick stand with Mona Lisa. Diamond stove on my neck, hang like Jesus. Jumped off the cross, jumped in the Alpina. Why you ain't drunk? Bitch, I already beat him.
Yeah.
We can add Bernie's, I lean him.
Had to beat the pot like Tina.
With
10 millimeter, got a fever.
Boom, boom, boom.
Goddamn, a bitch bad, you ever seen her? She only like to drink me and tequila. You ain't never bought 100 before. Test the Jeep with the zip-up doors. Grand piano and the pickup floors. I heard you was a bitch up north.
Run the bands up, heat the pans up. Work in the taxi like Tony Danza. Put the steps on the work, I'm a dancer. The brick had a baby and a grandson. They
caught him on camera blaming son. Got it on tape, Kid Rock and Pamela. They went Kid Rock and Pamela.
Vous êtes bien toujours à l'écoute de L'Envolée sur FPP 106.3. Et donc, voilà, bah, en attendant l'appel des prisonnières du centre de rétention de Mesnil-Amelot, on avait des bonnes nouvelles, pour une fois, dans cette émission, à vous raconter. Alors déjà, la première nouvelle, c'est que Kémy, dont on parle depuis plusieurs semaines, a enfin été transféré à Arles. Donc, il est à la centrale d'Arles. Il a quitté Saint-Maur, où il y avait les matons qui lui mettaient la misère depuis le 20 septembre, qui l'avaient tabassé, qui le menaçaient quotidiennement, etc. Ça reste l'administration pénitentiaire, ça reste des matons. Du coup, il a été placé immédiatement en quartier d'isolement, en gestion menottée à nouveau. Par contre, voilà, lui, ça l'a quand même un tout petit peu rassuré, enfin, de quitter cette bande de matons tortionnaires. On rajoute juste un petit bémol, parce qu'avec la paix, il n'y a jamais entièrement de bonnes nouvelles. C'est que ça fait souvent ça, l'arrivée dans une nouvelle tôle, et que des équipes de tortionnaires, il y en a dans toutes les tôles. Des CISRA, côté maton, il y en a dans toutes les tôles. D'ailleurs, c'est peut-être un peu endémique à la profession. Je ne sais pas comment on dit. Enfin, voilà. Et donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et juste avant qu'on passe l'appel, il y a une autre bonne nouvelle, c'est que ça fait maintenant depuis 3 ans, il y a un copain qui était venu assez régulièrement entre novembre 2018 et janvier 2019 à cette antenne avant de Rebéton, d'aller à Fresnes, puis aller en cours, puis d'être placé au centre de rétention de Coquel, qui a été libéré. Et du coup, bah, au poteau Mehdi, bah, franchement, ça fait trop trop plaisir, on t'a enfin revu dehors. Et ça a pas de prix, quoi.
Ouais, puis juste quand même aussi pour rajouter sur Arles, c'est quand même aussi l'une des maisons centrales, quand même, qui était en fait l'ancêtre de Vendin-le-Vieil et Condé, qui est quand même vraiment une centrale vraiment catastrophique. Enfin voilà, par exemple, il y a pas de machine à laver. Enfin, il y a plein de trucs vraiment merdiques. Voilà, donc on est content qu'il soit sorti des mains tortionnaires de ces matons. Mais
là,
mais
on reparle de Kémy. Hein.
Kémy, ouais, pardon. Mais voilà, mais enfin voilà, ça sera, c'est pas la panacée.
Pas mal depuis la mort d'Yvan Colonne aussi, ça, ouais, s'est pas mal resserré. Les quelques acquis qui avaient été obtenus, enfin les quelques marches qui avaient été grattées par les prisonniers ces 10 dernières années, quoi. Voilà. Et alors du coup, on a à nouveau un...
Ouais, on a un petit coup de fil. Salut.
Salut.
Allô.
Allô.
Oui, bonsoir.
Tu nous entends?
Oui, on vous entend très bien.
Ah, super. Comment ça va?
Bah, ça va, hein. On tient le coup.
Ok.
C'est comment... un peu compliqué en ce moment, mais ça va.
D'accord, parce qu'il se passe des trucs dans le CRA ou...
Ouais, c'est un tout, hein.
Ah ouais.
Vraiment, c'est un peu compliqué, ouais. On vient de perdre une de nos camarades, malheureusement, qui a été expulsée.
Ah ouais, c'est chaud. On est au courant de cette histoire, mais du coup, tu veux raconter un peu comment ça s'est passé ou...
Ouais. Bah, ils sont venus le 1er novembre et ils m'ont dit bah, vous êtes expulsée. Donc elle est partie, elle ne voulait pas partir. Elle est arrivée là-bas, il y avait 2 équipes d'escorte. Bah, ils l'ont prise de force, elle s'est fait taper dessus. Elle avait le visage gonflé, on a des photos. Elle a arraché ses vêtements, elle, parce que voilà, elle ne voulait pas aller. Ils l'ont rhabillée de toute force, ils l'ont menottée, attachée, ils l'ont claquée dans l'avion. Et malheureusement, bah, elle est partie.
Ah ouais,
ça a été
hardcore.
Très...
C'est chaud.
Ouais, ouais, franchement, ouais.
Et comment ça va depuis? Vous avez des nouvelles d'elle un peu?
Oui, on a des nouvelles d'elle, oui. Bon, bah, ça a été compliqué pour elle, hein, là-bas, de se réintégrer et tout ça. Mais bon, bah, elle tient le coup, de toute façon, elle compte revenir. Hein.
Ok. Bah, c'est trop cool que vous soyez encore en contact, en vrai.
Ouais, bah oui, hein. On est une équipe, hein, jusqu'au bout. Hein.
Bah ouais, elle est Totally Spies.
Elle est Totally Spies, c'est ça, c'est nous. On est là.
Trop bien.
On est plus que 2, mais on est encore plus fort que jamais.
Ouais, ça c'est cool. Et alors, comment ça s'est passé? Il y avait nos auditeurs, auditrices qui voulaient savoir comment ça s'est passé la journée de la jupe, alors.
Ah, la journée de la jupe. Je te laisse aussi me parler.
Non.
La journée de la jupe. Bon, bah, on s'est tous mis... Alors, moi, je me suis mise en short, hein, mini-short. J'ai envie de changer un petit peu. Vas-y.
Bonsoir, l'équipe. Siam. C'est Siam. Moi, j'ai laissé mes cheveux et je prends le mini-jupe et même aussi, je fais le maquillage tout. Et en fait, on est tous les trois, comme les mangas et tout. C'est vous qui m'a dit vous êtes les mannequins.
Oui. Bon, on a fait les mannequins ce jour-là. C'était super.
Franchement, c'était pas mal.
Trop bien. Et alors, du coup, les flics, ils ont dit quoi
vous voulez qu'ils disent quoi? Ça y est, ils finissent par s'y habituer, à force. Hein. Mm. Ils ont plus le choix. Hein. Voilà. Hein. Ils sont. Voilà, au début, je pense qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir des personnes comme nous. Maintenant, ils n'ont plus le choix. Et puis, ça devient presque normal. Mm. Donc, voilà.
Ok.
Bien, ouais,
ça. Ouais, c'est cool, hein.
Ouais, ça prouve quand même que quand t'es à l'extérieur, enfin quand tu te bats à l'intérieur, en fait, t'arrives quand même à gagner des petits trucs où ça devient normal, en fait. Enfin, c'est aberrant de voir se battre pour un truc pareil, hein, on est bien d'accord. Mais que ça soit devenu normal et qu'ils se soient habitués, voilà, ça prouve aussi ça avec le rapport de force IP un petit peu, quoi. Et bravo à vous, hein, de ouf.
Merci. Oui, oui, ça marche. On est passé de cheveux bouclés à cheveux lisses maintenant. On fait les brushing. On y est arrivé.
Trop bien.
Avec difficulté, mais on y arrive.
Et du coup, nous, on a parlé avec toi. Aujourd'hui, il y avait un sujet que tu avais envie d'aborder aujourd'hui.
Oui, qui te tient à cœur.
C'est la question des parents et de leurs enfants quand ils sont en CRA. Comment ça se passe quand les enfants ne sont pas en CRA? Et la séparation, quoi. Tu avais envie de parler de ça un peu? Tu voudrais nous dire des choses là-dessus?
Oui, moi, je vais parler un petit peu de mon cas. Déjà, moi, je suis une sortante de prison, donc c'est pour ça que moi, j'avais mes papiers. Ça fait largement plus de 20 ans que je suis en France. J'ai grandi ici, hein, carrément. J'ai été scolarisée ici. Mes enfants, ils sont nés en France, seulement qu'ils sont encore de nationalité de parents étrangers. Donc, c'est juste pour ça, en fait, qu'ils veulent faire le regroupement carrément familial là-bas, en Algérie. Mmh. Le problème, c'est qu'ils étaient chez la famille, placés, mais on les a, juste avant mon sortie de prison, on les a placés en famille d'accueil, donc avec une interdiction de quitter le territoire. Donc, c'est très compliqué. Donc, en fait, si on m'expulse, je suis expulsée, si le consulat algérien donne à laisser passer, je ne revois plus mes enfants.
Donc, ah ouais, c'est un truc de fou.
Je trouve ça vraiment inhumain et pas normal ce qui se passe. De séparer une mère à ses enfants, tout en sachant qu'il y a eu la prison, déjà il y a eu la séparation, ça a été quand même compliqué de les voir. Il y a eu la Covid-19 entre-temps, donc on n'a pas pu les voir. Et voilà, donc on peut comprendre qu'il y a un lien qui est complètement fissuré. Et tout en sachant qu'avant de rentrer, on était super fusionnels, mes enfants ils vivaient chez moi, il n'y avait rien du tout. Et là aujourd'hui, c'est plus compliqué avec eux, ça devient plus compliqué. Je ne vais pas citer l'organisme, parce que qui est connu, et que je pense que moi, la majorité, quand j'étais en prison, ils avaient des problèmes avec eux, qui font tout pour éloigner les parents des enfants. Quand les enfants, ils réclament après leurs parents, ils disent qu'ils ne réclament pas du tout après. Mais moi, je suis là, je me bats, et je suis là pour mes enfants. Et voilà, moi, je peux pas partir sans mes enfants. C'est inadmissible. C'est même pas pensable, en fait. Je vais laisser aussi parler Siam, parce que je pense qu'elle est aussi maman, et je pense qu'elle a des choses à dire aussi.
Moi aussi, je suis une mère d'un enfant, elle a un an et demi, et mon fils, elle est en Algérie, mais elle a des papiers français, parce que mon ex-mari, c'est français, et moi, j'ai pas de papiers. Alors, c'est nul pour le consulat, elle m'a donné... Pour le moment, il n'y a pas de laissez-passer, mais c'est nul qu'elle m'a donné le conseil à le laissez-passer. Alors, j'ai perdu mon fils, mais malgré tout, c'est que tout le monde, elle connaît. Moi, j'ai perdu deux enfants pour ma santé. Je n'étais pas bien. J'ai une santé très sensible. Alors, ça fait très, très, très mal.
Bah ouais, c'est clair, c'est en plus c'est une condition de rétention qui ont fait aussi que tu as eu des soucis de santé oui. en termes de
Et même j'étais déjà perdu un enfant ici dans le centre d'attention et j'ai même pas réclamé pour je peux pas avoir des problèmes et tout, même pas j'ai même pas réclamé pour mon fils et je peux pas perdre mon fils parce que elle est très petite et elle a besoin de moi. Moi j'étais déjà séparée avec mon fils, j'ai déjà 2 mois et demi, alors c'est trop.
Mais oui, il est tout petit en plus ton enfant, donc c'est
oui, elle est très petite. Même aussi, elle n'était pas petite, même aussi, elle a 10 ans et tout.
Oui.
Le fils, elle a besoin de sa maman. C'est ça. Par exemple, nous, en Algérie, on n'est jamais séparés. La mère a des enfants. La mère, c'est la maman, c'est la maman. C'est nul ici. Surtout pour le consulat. Le consulat, elle voit, c'est juste les personnes, elle voit pas la santé, elle voit pas les enfants, elle donne juste les laisser passer. C'est soit c'est la mère, soit c'est le père, elle donne juste le laisser passer. Et ça, c'est pas bien pour nous et pour mes enfants.
Et ça veut dire que là, tes enfants, ils sont placés?
Pardon?
Là, tes enfants, ils sont placés en ce moment?
Non. Mon fils, elle est juste dépannée à ma belle-sœur. C'est ça, elle n'est pas laissée passer. Okay. Il est chez sa belle-sœur.
Ah ouais, d'accord.
Et est-ce que du coup, comment ça se passe, par exemple, pour toi, vu que tes enfants, ils ont été placés pour, là, c'est, il me semble, pour toi. Du coup, est-ce que, par exemple, il y a des parloirs en centre de rétention avec les enfants, comme ça peut se passer des fois en taule?
En fait, il y a des droits de visite et tout ça, mais pour l'instant, c'est un peu compliqué. Et puis moi, je veux tout ramener mes enfants ici. Déjà, quand en détention, c'était très compliqué avec le plexi, tout ça, ils ont été choqués, très marqués. Non, je veux plus, même si je veux plus du tout tout ça. Je veux plus qu'ils subissent ça parce que je pense que déjà, rien que la séparation, ça les a assez traumatisés.
Bah ouais, on peut même pas imaginer qu'est-ce que ça doit être quand t'es un enfant de voir tes parents dans des conditions comme ça, ça doit être juste être horrible.
C'est horrible de se dire qu'à tout moment, on peut ne plus revoir nos enfants. Et qu'ils viennent, ils pètent nos portes à n'importe quel moment, un lit est passé et on s'en va en fait, on ne voit plus nos enfants. Franchement, je ne souhaite à personne de subir ce qu'on est en train de subir aujourd'hui. Ce qu'on subit là, en ce moment, c'est affreux.
Et tu imagines un enfant qui a 1 an et demi pour pas payer à la police, c'est dur. Imagine-toi.
Ici, c'est plus franchement psychologiquement, il faut être vraiment forte, force mentale d'acier parce que c'est très très dur. Honnêtement, c'est très dur. Surtout moi, c'est ce point qui me touche le plus. C'est voilà niveau enfant et je m'imagine même pas. J'imagine même pas être séparée d'eux un instant en fait et ne plus les revoir.
Et je sais pas dans quel taule toi t'étais incarcérée, mais il y a
Sylvia ici qui racontait
souvent que quand elle était à Fleury, il y avait toutes les prisonnières qui avaient des enfants qui accouchaient. Au bout de 18 mois, en fait, elles étaient placées à la nurserie pendant juste avant l'accouchement. Et au bout de 18 mois, en fait, on les séparait de leurs enfants. Et là, tout d'un coup, les enfants, ils étaient placés par le même organisme dont on parle, quoi. Et que ça redevenait un combat de ouf pour continuer à avoir un lien avec eux. Exactement dans la même situation que vous. C'est-à-dire, en fait, soit tu imposes à ton enfant de manger des parloirs avec toi, et donc avec toutes les douleurs que c'est pour toi, pour lui, etc. Soit tu t'imposes une séparation qui dure dans le temps, quoi.
C'est ça. Mais de toute façon, alors je vous explique, même avec cet organisme, même que en fait, on voit nos enfants, ils sont là, ils sont présents, ils entendent que les enfants, ils demandent après leurs parents, et ben ils disent qu'ils ne réclament pas du tout après les parents, et qu'ils ne cherchent pas du tout après les parents, et ils sont très bien dans la famille d'accueil. Moi, je suis choquée de ces propos-là. C'est vraiment inadmissible. C'est vraiment, et je pense que j'étais pas la seule, parce que moi, j'ai fait de la prison, et la majorité, ils avaient ce souci-là avec cet organisme. C'est une catastrophe.
T'as pu parler de ça quand t'étais détenue avec d'autres personnes qui ont subi des choses un peu similaires, du coup.
C'était exactement la même chose. Exactement. On dirait que dès qu'on commençait à parler entre nous, en fait, on vivait la même histoire avec le même organisme. C'était incroyable. Ils faisaient la même chose à tout le monde. C'est fou quand même.
Ouais, c'est un truc de fou.
En fait, ils se mettent pas en tête qu'on est les parents. C'est nous. On n'est pas morts. Ils sont pas orphelins, nos enfants. C'est fou quand même. Et même en rétention, en fait, on a l'impression que ça y est, ils ont enterré les parents. Ils nous ont enterrés, c'est bon, on n'existe plus. Et que, en fait, ils ont de nouveaux parents. C'est comme ça, en fait, qu'ils nous aillent. Vous allez être expulsés. Et puis, c'est pas grave, ils vont avoir de nouveaux parents en famille d'accueil. Mais non, en fait, mais jamais de la vie. Déjà qu'ils ont expulsé. Alors, moi, pour ma part, je vais parler un petit peu, parce que moi, il y a des choses que je veux pas parler pour le moment de ma vie privée. Mais déjà que leur père, il a été expulsé récemment. Donc là, il reste plus que leur mère, en fait. Il reste plus que moi. Donc, en fait, c'est comment ça se passe? C'est ça que j'essaie. D'accord, vous voulez expulser le maximum de monde, le bordel, mais expulsez pas. Moi, déjà, ce que je peux dire, c'est éviter d'expulser les parents qui ont des enfants et qui sont nés en France. Sachant que moi, je me considère déjà en tant que Française. C'est juste que j'ai pas fait la double nationalité. C'est pour cette raison-là que je me retrouve ici, dû à mon infraction, au délit que j'ai commis. Mais j'ai payé ma dette. J'ai fait de la prison. Aujourd'hui, je comprends pas pourquoi on m'envoie ici en rétention. C'est vraiment double peine. Mais c'est pire, c'est une triple peine, parce que là, on sépare. Ils veulent carrément nous séparer de nos enfants. On arrive devant les JLD, ils n'ont pas de réponse. Ils ne sont pas compétents. Désolé, nous ne sommes pas compétents. Mais on s'adresse à qui? Alors, on doit rester ici et attendre.
Mais en fait, du coup, ils veulent t'expulser, toi, mais sans tes enfants, ou ils veulent aussi...
Oui, qu'est-ce qu'ils veulent faire, en fait? Ils ont une interdiction de quitter le territoire, pour le moment, français. Ils ont une interdiction de le quitter. Ils sont placés. Donc, forcément, qui dit placé, il dit juge des enfants. Donc, en fait, moi, il faut que je récupère mes enfants progressivement. Mais on ne me laisse même pas le temps. Je sors de prison, on me met en rétention. Et j'ai pas le temps. Je fais comment? Je fais comment pour récupérer mes enfants? Puisqu'on veut tout de suite m'expulser après. De base, on voulait le faire déjà dès ma sortie de prison. Et c'est juste pour le moment, c'est grâce au consulat qui ne donne pas de laisser-passer. C'est pour ça que je suis encore là.
Ouais, donc en fait, toi, t'es bloqué entre deux administrations, quoi. D'un côté,
c'est la préfecture. Exactement. je suis entre les deux. Ouais, c'est compliqué. En fait, moi, mon histoire, elle est très compliquée, elle est très dure. Et voilà. Après, je ne suis pas une personne qui raconte mon histoire, mon vécu, ma vie. Mais voilà. Après, s'il faut que j'en arrive là un jour, j'espère ne pas arriver là, ben, je le ferai aussi. Même si je sais que ça va changer ou pas changer, mais c'est juste peut-être si je peux aider les autres personnes à continuer à se battre, et ben voilà, je le ferai.
Ouais, c'est clair, c'est trop cool.
Ouais, puis c'est sûr que ce que tu racontes là, en fait, c'est pas, ça arrive pas qu'à toi, quoi. Que
ils expliquent non, mais vraiment
pas. Avec enfants, ça arrive, mais qu'ils séparent des. En fait, c'est pas la première fois qu'on entend des gens qui sont à Ménilamlot et qui sont pris à la fois par cet organisme-là d'État qui gère le placement des enfants et à la fois par les problèmes de Paplard, quand c'est pas en plus des problèmes préfectoraux, enfin des problèmes judiciaires et tout derrière. Et du coup, tu te retrouves à jongler avec trois bouts de l'État, quoi, la justice, la préfecture et cet organisme.
Et c'est ça.
Ces trois trucs-là,
en fait, ils ont des injonctions
contradictoires.
Voilà, c'est ça. On ne sait pas par où commencer. Mais en tout cas, mon premier combat, c'est de sortir d'ici, de ne pas être expulsé, en tout cas. Ça, c'est mon premier combat. Et ensuite, ça sera de récupérer mes enfants. Après, voilà, il y a Siam qui pleure.
Oh non.
On va me faire pleurer aussi, hein.
Oh. Ah bah, force à elle.
Et moi, je ne peux pas laisser mon fils ici en France. Et moi, je ne peux pas partir en Algérie. Je peux prendre mon fils et je peux partir en Algérie. Si même moi, elle m'a donné de QTF de 24 heures, j'ai accepté. C'est juste, je demande juste pour elle m'a donné le temps pour prendre mon fils. J'ai pas besoin de prendre. Je demande pour le consulat d'Algérie, pour surtout les femmes. Je demande pour... Fais-toi à ma place le consulat d'Algérie. C'est ça.
Ouais, c'est sûr.
On est des mères, on est des enfants. C'est ça qu'on nous demande. On ne demande pas trop, on nous demande. C'est juste pour nous récupérer mes enfants. Et c'est ça.
Oui, donc du coup, en fait, elle demande au consulat algérien de ne pas donner de laissez-passer en priorité aux parents, les mères, les pères. Car c'est très compliqué. Et c'est très dur.
Ouais, puis on sait qu'en ce moment, ça bloque en termes diplomatiques entre l'Algérie et la France. Et que du coup, vous avez aussi en fait, cette chance dans le malheur, quoi, d'être dans le créneau, d'être dans ce moment de tension diplomatique où chacun essaie de tirer ses billes. Mais que par contre, le consulat algérien, c'est un de ceux qui collabore le plus avec l'État français, quoi. Et qu'ils en ont brisé, quoi, des vies. Et du coup, c'est important là de relayer publiquement ce genre de paroles pour essayer de leur mettre la pression depuis une autre place, parce que vous faites déjà le taf de là où vous êtes. Et nous, depuis l'extérieur, si on peut faire en tout cas un tout petit peu.
Et, merci, c'est gentil à vous. Tout en sachant qu'ici, c'est 3 mois maximum pour certains profils et pour d'autres, c'est 6 mois.
Ouais.
Ah ouais.
En tout cas, et pour ma part, ça va être 6 mois. S'il n'y a pas de laissez-passer, je sortirai qu'au bout de 6 mois, c'est-à-dire en février 2023. Donc, après avoir fait la prison, 6 mois en plus supplémentaires, donc ça fera presque 4 ans de ma vie.
C'est fou, c'est vraiment une double peine, quoi. C'est vraiment ouais. Un acharnement. Ouais. Parce que t'as pas les bons papiers, quoi.
Voilà, juste de ne pas avoir fait malheureusement la double nationalité. L'erreur que j'ai faite. Mais on ne pouvait pas connaître ce qui allait se passer. Donc, malheureusement, je ne pensais pas être un jour en prison et encore moins en rétention. Donc, on ne peut pas connaître l'avenir.
Bah, ça, c'est sûr. Puis, en plus, en fait, il y a un truc de... Toi, tu t'expliques ça, mais parce qu'il y a aussi un centre de rétention qui est fait spécialement là, pour les délits et les crimes dont tu parles, qui est à Lille, pas loin de l'aéroport, ouais. Où ils enferment toutes les personnes... hommes qui sont là pour être enfermés 6 mois et qui sont eux quasiment dans des conditions de quartier d'isolement, quoi.
Qui n'ont pas de contact. C'est un quartier à part et ils sont carrément isolés.
Ouais, exactement. Et de eux, on n'a aucune nouvelle. Enfin, il n'y a rien qui sort, quoi. Je ne sais plus c'est quoi l'asso qui est là-bas. C'est une asso chelou, genre l'Ordre de Malte ou un truc comme ça à Lille. Et il n'y a rien qui sort, en fait, de public sur les personnes. Et il y en a très peu qui sont incarcérés là-bas, ce qui rajoute, en fait, au côté quartier d'isolement, quoi.
Ouais, c'est ça. Ils sont à part. Ils ne sont pas en commun, en fait. Ils ne sont pas avec les droits communs et tout ça, comme en prison. Après, je ne vais pas... Enfin, je ne sais pas si je dois me plaindre ou pas, parce que... Je pense que parce que sur l'île, il n'y a pas de zone femme. Mais ouais, voilà, après, je me dis que bon, c'est déjà bien que je suis avec toutes ces retenues ici et que je ne suis pas toute seule. Mm. Voilà, j'essaie de voir les choses positivement, de prendre les choses au maximum pour ne pas essayer de déprimer encore plus qu'on l'est déjà. Mm. Mais après, voilà, moi, je suis une personne forte, battante et voilà, je lâche rien.
Ça s'entend.
Ouais, c'est cool. Franchement, ça donne de la force à tout le monde ici, ouais, et même, je pense, aux gens qui nous écoutent.
Bien sûr. Et c'est aussi pour ceux qui nous entendent, que ce soit les prisonniers. Moi, j'ai été prisonnière aussi. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est d'être éloigné de ses enfants, d'être enfermé, d'être considéré comme parfois moins que rien. Force, courage. Aujourd'hui, je suis pas morte. J'ai fait de la prison et voilà, je suis sortie encore plus forte que jamais, encore plus déterre que jamais.
Yes.
Franchement, ouais, merci, ça donne vraiment de la force de ouf. Merci de vous battre comme ça.
Et du courage aussi à tous les prisonniers, les détenus, les retenus. Force à vous. Voilà, battez-vous, ne lâchez rien.
Merci pour ce message. En tout cas, n'oublie pas que cette antenne, c'est la tienne, c'est la vôtre. Et qu'il ne faut pas hésiter, soit par l'intermédiaire des copines d'Abba Lekra ou de copains d'Abba Lekra, ou si une fois vous avez envie d'appeler en direct pendant l'émission ou juste avant l'émission, il ne faut jamais hésiter, quoi.
Ok, d'accord. Oui, après.
On vous laissera toujours du temps.
Mais après, excusez-moi, mais je vous entends pas très bien. Est-ce que vous pouvez.
Je disais, on vous laissera toujours du temps pour vous exprimer, quoi qu'il arrive. Et du coup, faut pas hésiter à appeler pendant l'émission, vous avez le numéro, ou à parler des personnes que vous connaissez à Balekra. Et enfin, voilà. Cette émission, elle est vraiment faite pour vous et pour toutes les personnes enfermées.
Oui, merci à vous, malheureusement. Et bien sûr, j'ai oublié la dédicace à la CIMAD, qui sont formidables, que j'adore ici. Ils sont formidables, équipe fantastique, à l'écoute, toujours là, toujours présent. À Balekra, formidable, ce que j'ai vu encore tout à l'heure. Et aussi à votre radio, merci à vous. Heureusement que vous êtes là aussi, pour faire entendre les paroles des retenus et des détenus.
Et merci à toi, du coup, on vous souhaite plein de force.
Merci
vous laisse
à vous.
Merci, à bientôt j'espère.
Plein de force,
moi, je te dis quelque chose, je l'aime trop Gwyn et je l'aime trop la CIMAD et même tout Abba Lekra, mais c'est même le radio, mais Bzef, c'est Gwyn.
D'accord. Voilà, c'était la petite dédicace de CIEM.
Merci beaucoup, on vous aime fort aussi. À bientôt.
On se fait très fort, à bientôt. Bonne soirée.
Ciao.
Au revoir, merci.
Already woke, spared a joke, barely spoke, rarely smoked, stared at folks when properly provoked, mirror broke, hair share a strawberry morning, gone and more important spawning, torn in, poor men sworn in, corners hens, switching positions, auditioning morticians, sword in a vision, ignoring prison, ignoramuses enlisting, sound dumb, found them, drowned in cow's dung, crowns flung, rings a tinkerbell, sing for things as frail as a fingernail, bring a scale, stale ginger lingers. Seven figures in vigor, nigga, fresh from out the jail, alpha male, sickest ninja injury this century, enter plea, lend sympathy to limper, simple Simon Ramen MCs, trees is free, please leave a key, these meager fleas, he's the breeze and she's the bee's knees for she's, G's of G's, seize property, shopper sprees, chop the cheese, drop the grease to stop diseases, gee whiz pa, doom rock grandma like the kumbaya, Mama was a hole hopper, Papa was a Rolling Stone star like Obama, pull a car like old drama, civil liberties, these little titties, abilities riddle me, middle C. Give an MC a rectal hysterectomy, lecture on removal of the bowels, foul technically. Don't expect to see the recipe, until we receive the check as well as the collection fee, more rect than section Z, what to expect to get for free? Shit for me, history, the key, plucked it off the mayor, chucked it in the old tar pit off La Brea, player. They say he's gone too far. Duma, catch him after Juma on cue. Laka! Do what you gotta do. Grah, the rumors are not true. Got you, ma. No prob, got the job. Hot bard, heartthrob. Scotch guard, the barber, cotton swab. Dart lob. Baker, cake sweet. Jamaica trading treats on the beach. Make a skeet till her feet's meet. Can it be I stayed away too long? Did you miss these rhymes when I was gone? As you listen to these crazy tracks, check them stats, then you know where I'm at. And that's that.
Look, there's Doom now.
I followed him to the studio, but I was too late to stop him.
That's right! You'll never stop me! You're dead! You're both dead! Doom!
Eh bah, c'est merde pour
la... Poum, poum, poum.
Bon, donc on va terminer l'émission, il nous reste un peu moins de 10 minutes. Peut-être qu'on va annoncer l'agenda tout de suite. Après, on part vite fait en discussion un peu freestyle parce qu'on a mal chronométré notre émission. On avait prévu un beaucoup plus longtemps de discussion sur ce qui arrive, quoi. On voulait annoncer un truc qui est important, c'est que comme tous les ans, en décembre, il y aura la marche de justice et vérité pour Babacar, et qu'avant ça...
Ouais, en préparation du coup de cette marche, là, mardi 15 novembre, à 19h, il y aura une soirée de soutien au collectif Vérité et Justice pour Babacar. Et donc ce sera à Rennes au bar qui s'appelle Babazoula, 182 avenue Patton. Donc voilà, juste pour rappeler en 15 secondes, donc Babacar, il a été tué par la BAC de Rennes... il y a 7 ans. Et donc voilà, la famille, elle continue à se battre, d'autant plus que en juillet dernier, le parquet, il a demandé un nouveau non-lieu en faveur du keuf qui a buté Babacar. Donc voilà.
Ouais. Et si je dis pas de conneries, il a été tué alors qu'ils avaient appelé que la personne avait appelé les pompiers. Et que les pompiers, étant un service de l'État qui collabore avec les keufs, quand tu les appelles en disant que quelqu'un va mal, en fait, ils ramènent les keufs. Et que donc ils ont tué Babacar. Et donc c'est juste encore une fois un appel. Pour dire que quand on appelle les pompiers, on fait attention. Sauf si c'est pour. Sauf si c'est un truc volontaire contre les pompiers, quoi. Mais que sinon, on fait attention, parce qu'en fait, on risque de ramener les keufs et on risque de faire buter quelqu'un. Voilà. Et plein de force à Awa, qui mène cette baston depuis 7 ans et qui est présent dans le réseau Vérité et Justice. Et
qui est présent à toutes les marches à chaque fois et ouais. qui est chaque fois présente et tout, et solidaire avec toutes les autres familles et tout. Voilà, et donc c'est important de continuer à relayer. On va, enfin voilà, vous pouvez réécouter. Il y a eu beaucoup beaucoup d'émissions sur les, enfin à chaque fois en fait en décembre, elle appelait pour annoncer la marche, et donc vous pouvez réécouter ces émissions qui doivent généralement être le premier vendredi de chaque année. Voilà, et dans laquelle elle rappelle vraiment toute la misère qu'ont pu et lui foutre les keufs, puis après derrière la justice. Voilà, et si mes souvenirs sont bons, en fait, c'est un non-lieu définitif là qui a été, enfin, je sais pas comment on dit, mais enfin bon, en tout cas, voilà, c'est non-lieu définitif, et donc il y a plus grand chose. Ils ont détruit les armes, dans les scellés, enfin bon, des histoires de fous que
histoires
que
de keuf, en fait.
Voilà, mais
c'est
donc
fou, ils ont rien demandé, quoi, mais c'est une histoire de keuf, enfin, je sais pas comment dire, quoi. Et Désolé, aujourd'hui je suis insupportable.
Non, 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 mais t'as raison, hein, y a pas de souci, t'inquiète,
en fait,
t'as raison.
Faut arrêter les jours fériés, quoi.
Oui, c'est ça, et puis moi, faut que j'arrête de dire des bêtises.
Non, on voulait en profiter vite fait, parce que ça fait 10 jours qu'il y a toute la com gouvernementale autour de la nouvelle loi asile-immigration. Donc, Macron, quand il a été élu, il avait annoncé deux queutrues. Tous les deux de droite, hein, on se rassure, c'est la réforme des retraites, la réforme du chômage, et de l'autre côté, c'était une nouvelle réforme sur le droit des étrangers. Ce qu'on appelle le droit des étrangers, c'est un droit répressif, hein. C'est pas des choses qui sont en faveur des personnes étrangères. Et ce qui s'annonce là, donc il y a deux choses qui ont fuité. Enfin, il y a une chose qui a fuité, c'est un rapport interministériel, enfin de différentes administrations. Et d'un autre côté, c'est une interview de Darmanin et Dussopt, je sais pas comment on l'appelle ce mec, qui doit être le ministre du Travail, quoi, le nouveau Elisabeth Borne de ce gouvernement. En gros, ce que eux ils disent, c'est qu'ils vont renforcer et faciliter les OQTF. Bon, ça, c'est les annonces classiques pour les demandes d'asile, mais que surtout pour les demandes d'asile, maintenant, pour les gens qui feront une demande d'asile et qui après feront appel, ils passeront plus devant trois juges ou deux juges, ils vont passer devant un juge unique qui seront en région. Alors, on sait qu'on n'a pas confiance dans les juges en général, et encore moins dans les juges de la CNDA, donc la Cour nationale du droit d'asile. Mais par contre, ça veut dire que ça va être encore plus de la justice d'abattage et qu'il y aura encore plus de refus de demandes d'asile, que les demandes d'asile depuis la précédente loi asile-immigration, donc ça fait à peine 4 ans hein, que la dernière grosse réforme du CESEDA, le code de répression des étrangers, elle est passée. C'est quasiment systématique les OQTF quand tu fais appel à la CNDA. Il y a de plus en plus d'OQTF pour des refus de titres de séjour, notamment les titres de séjour santé. Et donc là, ils appellent encore plus à systématiser ce genre de pratique. Lui, il appelle les préfectures à rendre la vie impossible à toutes les personnes qui ont des OQTF, notamment en les mettant au fichier des personnes recherchées. Et donc, c'est encore un glissement répressif quoi, qui s'annonce. Et de l'autre versant, c'est que une des manières d'être régularisé en France, c'est par le travail. Pour ça, il faut avoir plusieurs années de présence, il faut avoir un patron qui veut bien t'aider dans ta régularisation. Donc c'est vraiment un système d'esclavage moderne quoi, qui est mis en place. Et maintenant, ils veulent créer un nouveau titre de séjour qui sera un titre de séjour métier en tension, avec plein de guillemets. Quoi. Pourquoi avec plein de guillemets? Juste parce qu'en fait, les trois quarts des régularisations, elles se font déjà dans ce qu'ils appellent les métiers en tension. C'est-à-dire les métiers où on sous-paye les gens et dans des conditions hardcore et où en fait, il y a majoritairement des sans-papiers, des étrangers qui taffent. Le truc, c'est que donc, ce nouveau titre de séjour qui va arriver, il sera vraiment lié ce métier en tension-là et il n'y aura pas possibilité, au bout de quelques années, d'obtenir une carte de résident comme c'est le cas actuellement. Et donc actuellement, on enchaîne les gens à un patron pendant 2 ans, 3 ans, avant qu'ils obtiennent une carte pluriannuelle qui dure 2 à 4 ans, et donc qui leur permet de se détacher en fait, de ce patron. Quoi. Et ça, c'est la grosse réforme de Darmanin. Et l'espèce de carotte qu'ils vont mettre en place, c'est promettre pas mal de régularisation à ce moment-là sur les personnes qui travaillent dans ces métiers en tension. Mais c'est des fausses régularisations, enfin c'est des régularisations très courtes quoi, qui vont être liées à ces contrats de travail dans ces secteurs-là, principalement en vue des JO, du Grand Paris et des grands chantiers dans toutes les métropoles. Un petit truc qu'il faut dire, c'est qu'en fait quand tu obtiens un titre de séjour en France, c'est que tu donnes tes empreintes, ton passeport. Donc une fois que tu te fais péter et que tu es placé en centre de rétention, ça facilite de ouf l'expulsion. Il n'y a plus moyen de mytho sur sa nationalité, tes empreintes elles sortent directement, etc. Et donc c'est vraiment un fichage généralisé de plein de gens qui va se passer. Et donc c'est vraiment, enfin là la situation va devenir encore plus catastrophique. Sauf que il y a cette carotte des régularisations. Bref, tout ça pour dire qu'il faut se tenir au courant que dans les prochains mois, pour les personnes qui sont en Île-de-France, il y aura des assemblées et des mouvements de lutte. Là, le calendrier qui est annoncé, c'est décembre des débats à l'Assemblée et au Sénat, et le vote à partir de mars à l'Assemblée nationale de la loi. Et donc nous, on vous tiendra au courant. Là, pour le moment, c'est des annonces et on verra un peu plus précisément ce qu'il y a dans la loi. On passe vite fait au coucou et on va nachaf puisqu'il reste 1 minute 30 d'antenne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un truc à dire? Un coucou, tout ça. Et bah déjà, plein de force aux deux personnes qui ont appelé et qu'on espère qu'ils auront la force et l'occasion de rappeler quand elles le voudront. Plein de force à Kémy. Voilà, on espère que ça va mieux se passer à Arles, même si on connaît, même si la réputation des matons les précède. Encore un gros big up à Mehdi qui est libre. Ce sera ta dernière case dédiée à cette émission, on espère. À Rimka et à Nico qui sont à Valence, Céline qui est à Brest, aux deux poteaux à Villepinte. On pense à vous et on vous oublie pas.
Ouais, à Christophe aussi,
voilà, à tous les prisonniers et prisonnières, voilà, et surtout leurs proches, voilà, qui
merci Serge,
qui voilà vont en parler et tout, voilà, plein de force aussi dans tous les gens dans les centres de rétention et tout.
Même s'ils font partie de tous les prisonniers.
Mais ils font partie de tous les prisonniers. Putain, aujourd'hui, j'aurais pas été très académique.
Mais enfin bref, voilà. Bah, en tout cas, force, courage et détermination. Et comme on dit d'habitude, évidemment qu'il n'y a pas d'arrangement avec eux, quoi.
Rediffusion.
Mercredi matin, 8h30.